Chronique du Pays Toulousain. Une émission proposée par les Toulousains de Toulouse avec Aline Thomazin et Sébastien Pénary.
Bonjour chers auditeurs, une nouvelle chronique du Pays Toulousain en compagnie d'Aline Thomazin. Bonjour Aline.
Bonjour Sébastien.
Et nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir M. Didier Foucault. Bonjour M. Foucault.
Bonjour, monsieur, madame.
Et bien donc vous êtes professeur émérite d'histoire moderne et spécialisé de l'Ancien Régime à l'Université Toulouse Jean Jaurès. Laboratoire Framespa, enfin je crois que vous avez pris la retraite de...
Voilà, oui.
Mais vous êtes toujours en activité intellectuelle, bien sûr, et vous avez commis un très joli petit livre pour lequel nous vous recevons aujourd'hui sur un personnage, Vanini, qui est un libertin et qui va connaître en 1619 le bûcher, une condamnation du Parlement de Toulouse.
Condamnation définitive et un bûcher pour qu'il ne reste rien sauf descendre. Ce qui veut dire que Vanini avait accumulé autour de lui beaucoup d'inimitié, si on peut employer ce mot, qui est assez faible. Alors, qui était ce Vanini?
Alors, Vanini, d'abord, s'appelle Giulio Cesare, Jules César, comme on l'appelle souvent en France. Il a été aussi surnommé Lucilio à la suite de la déformation d'un pseudonyme sous lequel il vivait à Toulouse. Et il est né dans le sud de l'Italie, dans la région qu'on appelle le Salento, dans la capitale est Lecce. C'est en gros le talon de la botte. Ça appartenait au royaume de Naples. Il appartenait à une famille, disons, en ascension sociale, qui était au service de puissants seigneurs du royaume de Naples, ce qui lui a permis de faire des études solides. Semble-t-il, chez les jésuites à Lecce, c'est ce qui est le plus probable. Et ensuite, il est allé à l'université de Naples.
Donc une très belle formation classique.
Voilà, une formation effectivement classique. Et ensuite, il est entré à l'université pour faire des études de droit, droit civil et droit canon, donc avec la partie, disons, de droit religieux. Mais en cours de ces études, peut-être à la suite de la mort de son père, qui aurait peut-être souhaité le faire plutôt entrer dans l'administration qui était très, très importante de ce royaume de Naples, il décide de changer d'orientation pour entrer dans les ordres et entrer dans le monastère des Carmes de Naples.
Ah oui, un choix tout à fait personnel et que rien n'annonçait.
Voilà, finalement. Il y a eu des spéculations diverses, mais... À ce que j'ai pu en étudier, il semble que ça a été une conversion sincère, ne serait-ce que parce qu'il change d'orientation juste après la mort de son père, alors que, je dirais, on peut penser qu'il était plutôt obligé d'aller plutôt vers des études juridiques du vivant de celui-ci.
Donc le voilà chez les Carmes.
Voilà.
Et donc... comment va se dérouler sa vie?
Alors, on a peu d'informations sur le début de sa carrière religieuse. On est à peu près sûr qu'il a reçu la prêtrise et il est devenu prédicateur. On ne sait pas trop ce qui s'est passé pendant quelques années, disons entre 1606, au moment où il a son doctorat de droit civil et de droit canon, et puis les années 1610 où on le retrouve à Venise. Mais à Venise, on sait qu'il a fait des prédications dans de grandes églises, on ne sait pas lesquelles, et qu'ensuite, que ce soit en Angleterre, à Paris ou autre, c'est quelqu'un qui a fait des prédications. Donc il était entré dans cette voie. Et il s'est retrouvé à Venise à un moment, ça a sans doute été un élément assez important dans sa carrière, où le clergé vénitien qui suivait majoritairement la République de Venise était en conflit avec le pape.
Ah oui, et donc est-ce que ces prédications... l'ont mis un petit peu en difficulté.
Ça, on en est sûr, puisqu'il a été, en quelque sorte, il a subi des conséquences disciplinaires de la part du général de son ordre, qui lui a intimé l'ordre de revenir dans le royaume de Naples. Et à ce moment-là, de peur de l'Inquisition à Naples, il a pris contact avec l'ambassadeur d'Angleterre et secrètement, il s'est rendu en Angleterre et s'est converti à Londres à l'anglicanisme, en étant l'hôte de l'archevêque de Canterbury, ce qui n'était quand même pas rien.
Quel parcours quand même.
Voilà. Hein? Mais un parcours décevant, parce que très vite, il s'aperçoit que les anglicans n'étaient pas du tout tolérants et avaient aussi, sans doute autant que l'Inquisition romaine, peu de sympathie pour des gens qui avaient des idées un peu originales, et ce qui l'entraîne à, par le biais de l'ambassadeur d'Espagne, qui représentait officieusement les autorités catholiques, puisque le pape n'avait pas de représentant à Londres, il réussit secrètement à obtenir le pardon de Rome et pouvoir revenir en terre catholique. Il est cependant découvert par l'archevêque de Canterbury, qui n'est pas du tout content, qui le met en prison, il s'enfuit, et secrètement, il regagne Bruxelles pour être ensuite accueilli à Paris par le nonce pontifical. Une vie est quand même assez rocambolesque.
Est-ce que ça veut dire donc qu'il avait une pensée hétérodoxe? Donc, qu'est-ce qu'il prêchait qui pouvait déranger à la fois le dogme de l'Église et peut-être les pouvoirs civils?
Alors, effectivement, on s'aperçoit qu'au cours de ses pérégrinations, il a, semble-t-il, deux expériences malheureuses avec le christianisme, d'une part le catholicisme, d'autre part une version du protestantisme anglican, et par ailleurs, il a beaucoup d'intérêt pour la philosophie, et notamment pour un certain nombre de penseurs italiens, comme Machiavel ou Jérôme Cardan ou Pomponazzi, qui dès le XVIe siècle, donc il est né en 1585, donc les deux, trois générations qui ont précédé, avaient déjà développé des idées qui paraissaient comme hétérodoxes à l'égard de la religion, sur le rôle politique de la religion, sur l'immortalité de l'âme, sur l'existence des démons, la réalité des miracles, etc. Tout cela faisait partie d'un bagage intellectuel qu'un certain nombre d'intellectuels italiens avaient développé dans les générations précédentes et que l'on retrouve notamment dans les deux livres que Vanini a publiés en France, à Lyon et à Paris, en 1615 et 1616.
Et donc, il a écrit, donc il a matérialisé sa pensée dans des écrits. Et quel a été l'effet de ses écrits?
Alors, son premier livre n'a pas eu beaucoup d'écho. En revanche, son second livre, qui est écrit en latin et qui s'intitule « Les admirables arcanes de la nature », présente un développement assez complet de sa philosophie en développant dans un premier temps une philosophie dans laquelle il postule de manière assez ouverte l'idée que le monde serait éternel, qu'il n'y aurait pas eu de création, que la matière serait la seule substance existante, donc une forme de matérialisme, qu'il développe ça ensuite en s'appuyant sur les connaissances scientifiques de son temps, et surtout la dernière partie qui a été la plus scandaleuse, s'attaque directement à la religion en mettant en cause toute une série de principes, les miracles, tout ce sur quoi, disons, la religion était reçue dans les populations. Et cela a entraîné la condamnation par la Sorbonne.
Et donc, voilà des conditions rêvées pour une excommunication. Alors, est-ce qu'il a été excommunié?
Alors, il n'a pas été excommunié, mais la Sorbonne a condamné son livre. Et il se trouvait à ce moment-là, il avait réussi à s'intégrer dans les milieux de la cour de France, qui était dominée par les Italiens, puisque c'est l'époque, la fin de la régence de Marie de Médicis, Louis XIII est encore un jeune homme, c'est Concini qui tient les rênes du pouvoir, et il a réussi donc à se faire admettre comme aumônier du régiment des Suisses, ce qui n'est pas rien, parce que le régiment des Suisses, c'est le régiment qui protège le roi. Et donc, on sait qu'il a fait des prédications à Paris, par exemple, dans le cadre de ses fonctions.
Donc, il y a une certaine habileté, quand même, de sa part. Il sait louvoyer.
Voilà. Partout où il est passé, il se retrouve assez vite dans des milieux très en pointe à l'intérieur de la société dans laquelle il vit, que ce soit à Venise, à Londres, à Paris.
Et alors, la critique de son ouvrage, et même l'interdiction, je pense, de son ouvrage, a eu un effet sur la place qu'il avait acquise auprès du pouvoir.
Alors, on ne sait pas trop comment les choses se passent, mais il y a la conjonction entre, d'une part, cette condamnation par la Sorbonne qui le met en difficulté incontestablement à titre personnel, y compris dans sa fonction d'aumônier, et en même temps se produit l'écroulement du pouvoir italien au sein de la Cour de France. Quelques mois plus tard, Concini sera assassiné et les Italiens sont chassés, en fait. Donc, lui étant italien et par ailleurs ayant un peu une réputation déjà datée, n'était pas très bienvenu à Paris à ce moment-là.
Quoi. Il avait quand même accumulé beaucoup de charges contre lui. Est-ce que c'est la raison qui va l'amener à venir à Toulouse ?
Très certainement, parce que son protecteur à Paris, qui était le maréchal de Bassompierre, qui dirigeait le régiment des Suisses, était très ami avec le comte de Foix, Adrien de Montluc, qui est le petit-fils du mémorialiste des guerres de religion, et grand général des guerres de religion. Et donc le comte de Foix, qui est un personnage très puissant, puisqu'il protège en fait la frontière pyrénéenne, et qui est proche de Montmorency, est réputé comme étant son protecteur. Plusieurs textes l'attestent. Et il se retrouve d'ailleurs dans un milieu intellectuel très riche, où on retrouve des poètes comme François de Ménard, disciple de Malherbe, comme Goudouli aussi, qui était protégé d'Adrien de Montluc. Mmh. Et il semble qu'il ait fréquenté un peu ce milieu pendant quelques mois, guère plus.
Et donc, à Toulouse, il n'a pas changé, évidemment, ni d'opinion, ni de... Alors, qu'est-ce qui concourt à l'avoir considéré comme nuisible au point qu'il va être jugé et condamné ?
Alors, en fait, plusieurs dénonciations. Il semble avoir été, et ça on retrouve un peu d'autres cas de figure à d'autres endroits où il a vécu, quelqu'un d'un peu imprudent.
C'est-à-dire que le provocateur.
Assez rapidement dire le fond de sa pensée à des gens qui n'étaient pas toujours disposés de le recevoir. Il y avait quand même ce qu'on appelait les libertins, qui étaient assez nombreux à cette époque-là, notamment dans les milieux aristocratiques ou aussi les milieux littéraires. Mais il n'y avait pas que des libertins. C'est l'époque aussi où l'Église catholique se réorganise. C'est après le Concile de Trente. Et il y a des gens donc qui sont vigilants.
Oui. Donc une issue vraiment plus que probable et un supplice qui ne surprendra personne.
Voilà, il est dénoncé à cause de ses blasphèmes, jugé par le Parlement de Toulouse avec une instruction qui est un peu longue, un peu compliquée. Il essaie de se défendre et puis il est condamné à mort.
Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Alors, pour ceux qui veulent avoir le détail du supplice, de la sentence et mieux connaître le personnage, deux livres auxquels M. Foucault a largement participé. 1619, Vanini, un libertin sur le bûcher aux éditions Midi-Pyrénéennes. Et puis l'ouvrage aussi récent, en codirection de M. Le Pestipon, Presse universitaire du Midi, L'esprit de liberté à Toulouse au temps du Parlement. Voilà, vous trouverez les références sur le site de la radio. Merci beaucoup, M. Foucault, de nous avoir donné la curiosité de creuser le personnage et les idées de M. Vanini.
Merci pour votre invitation.